au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mercredi 29 avril, j'espère que vous avez passé une belle journée. C'est gris présentement avec 17 degrés au cœur de la Naudière. À l'émission aujourd'hui avec Pierre Paquette, on va parler du premier ministre, ou plutôt de la première ministre, Christine Fréchette, là, qui abaisse les impôts des PME. Nicolas Dufour sera avec nous, maire de Repentigny. Sera question de la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption, là, qui va profiter d'une aide financière de 300 000 $. Mathieu Bélanger, analyste politique, sera avec nous. Il va revenir sur cette mise à jour économique du ministre des Finances, François-Philippe Champagne. Mais tout d'abord, ça a retenu vraiment l'attention sur la scène régionale dans l'actualité. Aujourd'hui, Amnesty International qui dévoile les résultats de 2 ans de recherche sur la situation du logement en milieu autochtone au Canada. Et le rapport cite en exemple la communauté de Manawan ici dans la Naudière et a fait état là, d'une crise du logement alarmante qui exige une réponse immédiate et la problématique n'est pas nouvelle. Mais le chef Sipi Flamand a expliqué à François Morin qu'il fallait prendre les grands moyens. On écoute l'entretien.
Okay. Sipi Flamand, Amnesty International qui dévoile aujourd'hui les résultats d'un rapport d'enquête quand même exhaustif concernant le logement dans les communautés autochtones. Et encore une fois, Manawan est malheureusement cité en exemple. On s'attendait un peu à ce que ça sorte parce qu'on le savait, on la vit, la problématique à tous les jours, même ici, on en a déjà parlé, et finalement, il n'y a rien qui a l'air à se régler.
On a dû demander à l'assistance puis aux compétences internationales de Amnesty pour faire un rapport, une étude sur la réalité que nous vivons à Manawanania avec la crise du logement. Je pense que ça fait plusieurs années que nous dénonçons cet enjeu, puis le fait qu'on fasse une collaboration, un partenariat avec Amnesty International de ces genres, on veut démontrer clairement que cette réalité-là existe, puis il faut que ça change. Puis ça prend des actions concrètes des gouvernements pour pouvoir apporter des changements de paradigme dans cette situation-là qui est la crise du logement dans les communautés autochtones.
Pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on peut, si on veut, là, illustrer là, dans quelle problématique on vit dans certains endroits?
À Manawan, il y a beaucoup de maisons, mais dans ces maisons-là, il y a beaucoup de familles. On peut constater de la surpopulation, puis ça peut entraîner des problèmes à l'intérieur même de ces maisons-là. Tu sais, des familles qui sont en conflit entre eux, puis également des enfants qui ne peuvent pas se concentrer pour faire leurs devoirs, puis ça entraîne des décrochages scolaires, puis c'est ça a un impact au niveau social. Sociaux également. Je pense que c'est pour pouvoir répondre au bon développement dans une communauté, dans la société, il faut avoir un toit. Puis pour pouvoir avoir un toit, ça prend du financement. Puis du financement pour nous doit provenir du gouvernement fédéral qui est le responsable fiduciaire des communautés des Premières Nations.
Est-ce que je me trompe, mais il me semble qu'il y avait déjà eu une annonce il y a quand même pas tellement longtemps de ça, peut-être à l'automne, pour du financement justement pour améliorer les conditions de vie des communautés.
Malheureusement, quand il y a ces annonces-là, c'est genre des programmes de financement qui sont annoncés, mais au nombre de communautés autochtones qu'il y a au Canada, ces financements-là ne répondent pas à l'ensemble des communautés, ce qui est problématique. Il y a plus de 630 communautés autochtones partout au Canada. Et puis la situation qu'on vit à Manawan en lien avec la crise du logement, c'est la même réalité partout au Canada. Puis je pense que c'est le financement que le gouvernement annonce n'est pas réaliste pour pouvoir répondre concrètement.
Mais Manawan, est-ce qu'on a reçu des sommes et on a pu faire quelques travaux ou on n'a absolument rien eu?
On a reçu des miettes de financement pour pouvoir soit rénover des maisons ou bien en bâtir, mais tu sais, on reçoit des demandes de logement à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. C'est genre des familles qui nous appellent en urgence pour demander quand est-ce qu'ils vont pouvoir avoir leur maison, mais nous, ce qu'on peut répondre, malheureusement, c'est que on suit la liste d'attente des demandes de logement, puis c'est genre, c'est triste à dire là, mais on peut pas répondre à ce qui est demandé parce que on vit du sous-financement chronique, puis pour pouvoir bâtir, construire des maisons, c'est genre pas réaliste. Au financement qu'on reçoit pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes dans la communauté.
Peut-être un aspect qu'on aurait peut-être dû parler aussi, parce que c'est pas de la faute des gens qui vivent dans ces maisons-là, mais plusieurs habitations datent de dizaines d'années et auraient peut-être besoin de plus que de l'amour. On parle même de conditions de salubrité là, questionnables.
Il y a des maisons qui datent depuis des années 60-70 qui doivent être refaites et même les démolir parce que ces maisons-là sont plus aux normes, sont plus viables, puis ces maisons-là ramassent beaucoup d'humidité qui entraîne la moisissure, puis qui entraîne également des problèmes de santé respiratoire pour les enfants, pour les familles qui y vivent. C'est malheureux, puis je veux pas que les gens tombent malades, d'où la raison qu'on fait des actions, notamment en déposant un rapport avec Amnesty, c'est pour pouvoir dénoncer cette situation-là que nous vivons à Manawan.
Je sais que le député fédéral Gabriel Sainte-Marie doit apostropher là, les autorités gouvernementales au cours des prochaines heures, mais on se donne, en fait, on attend une réponse pour avant hier, j'imagine.
On attend une réponse depuis le mois dernier, depuis même plusieurs années avant, pour pouvoir bâtir des maisons. Là, mais il faut que le gouvernement agisse. Puis moi, je l'invite à communiquer au leadership autochtone, aux instances autochtones, puis partir d'un fondement de co-construction dans le développement des programmes, dans le développement des projets de loi en lien avec les logements sociaux, des logements autochtones. Je pense que c'est dans cette voie-là auquel on peut interagir ensemble, puis vraiment que le gouvernement fédéral comprenne la réalité que nous vivons dans les communautés.
En terminant, je comprends que c'est le gouvernement fédéral qui est le fiduciaire, mais est-ce qu'on peut également se tourner du côté du gouvernement du Québec?
Le gouvernement provincial a également la responsabilité d'agir en conséquence sur ces enjeux-là. Je pense qu'il devrait mettre de côté les conflits interjurisdictionnels, puis vraiment répondre ce qu'il peut, comment il peut contribuer, collaborer avec les communautés autochtones dans un tel contexte d'urgence.
Donc, en termes de sensibilisation, le timing est bon compte tenu du décompte électoral?
Le timing est bon, puis j'invite aux candidats des différents partis politiques de réfléchir, puis aussi de voir comment répondre aux communautés autochtones. Puis j'interpelle également les futurs candidats, puis les différents partis politiques à revoir leur position en lien avec le principe de Joyce. C'est important que le Québec l'adopte, puis le mette en œuvre également, ce principe-là.
François Morin qui s'entretenait avec le chef de la communauté Atikamekw de Manawan, Sibi Flamand. Là. Manawan, par endroit, c'est carrément le tiers-monde dans la Lanaudière. Et c'est pas peu dire, et j'avais une discussion un petit peu plus tôt aujourd'hui avec des collègues de travail. Il faut avoir vu Manawan, là. Il faut l'avoir vraiment vu là, pour constater à quel point ces gens-là vivent dans la misère, la difficulté, avec ce qu'ils ont comme logement, ce qu'ils ont pour se loger. Et je vous donne un exemple rapide. Vous avez une fenêtre dans votre maison, il y a un caillou qui revole dans la fenêtre éclate. Ben, il n'y a pas de moyen de remplacer la fenêtre. Vous mettez un plywood carrément. Il y a plein de maisons à Manawan comme ça où on retrouve des plywood. Pourquoi? Parce que, ben, on ne produit pas de fenêtres à Manawan. Et si vous voulez aller chercher une fenêtre à Joliette, à Saint-Michel-des-Saints, ben, imaginez-vous passer le chemin de Manawan, à passer à travers le chemin de Manawan pendant au moins 70 kilomètres. Un chemin tout croche avec la fenêtre que vous venez d'acheter. Ben, rendu à Manawan, la fenêtre va être toute cassée. C'est ce qui se passe présentement. C'est une infime partie ce que je vous amène là, de ce qui est vécu par la population de Manawan. Et évidemment, les logements sont surpeuplés. Gros problème. Il est 16h15. Dans les prochaines minutes, notre analyste politique Mathieu Bélanger.
Hey, tu veux laver tes vitres? Appelle donc G-Vitre. C'est le spécialiste en lavage de vitres. Lavage à pression aussi disponible. G-VIT au 450-559-6928.
Saviez-vous que Promutuel est encore l'assureur grand public le plus recommandé?
Ben là, c'est vous qui faites la voix de Promutuel.
Oui. Vous les connaissez?
Mais ça, je les aime d'amour. J'ai eu un dégât d'eau à la maison. Mon sous-sol était foutu, mais ils m'ont réglé ça. Ils sont tellement efficaces.
Pas pour rien qu'on en parle autant. Bon, je finis mon message.
Ben
moi.
Oui.
Pour un service tellement efficace, choisissez vous aussi l'assureur qu'on aime recommander.
Son super.
Des conditions s'appliquent. Promutuel Assurance et la 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 la.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fasciite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la clinique podiatrique de Joliette au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromé. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèse plantaire, injection de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIED, 398-7433, podiatrejoliette.com.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Mettez nos défis, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Rogue S 2026 à traction intégrale en location de 36 mois et profitez de taux fidélité aussi bas que 0% chez Joliette Nissan.
Le biscuit sourire de Tim est arrivé et chaque bouchée fait une vraie différence près de chez vous. Parce que 100% du produit de la vente va à plus de 600 organismes locaux et groupes communautaires. Achetez vos biscuits sourire chez Tim du 27 avril au 3 mai dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. CFNG.
Lanaudière PM. Économie.
Il est 16h17. Il y a du bon et du moins bon dans la mise à jour économique qui a été livrée hier par le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne. Le déficit en est à la baisse, mais le Canada est loin d'être en mesure de se sortir du rouge. François Morin en discute avec notre analyste politique, Mathieu Bélanger.
Le déficit est moins important que prévu, essentiellement parce que on a eu plus de rentrées d'argent, moins de dépenses que prévu. Notamment lié à l'inflation qui a un impact sur le prix de l'essence, et le Canada est un pays qui produit de l'essence, du pétrole, donc ça l'a servi. On fait quand même des dépenses, un peu plus de dépenses. On s'attend toujours, les citoyens et les citoyennes s'attendent à peu près toujours lorsqu'il y a un budget ou lorsqu'il y a une mise à jour économique, qu'il y ait certaines dépenses de plus qui soient annoncées pour répondre aux besoins du moment. Ici, notamment lié au coût de la vie, entre autres, avec des mesures qui ont déjà été annoncées par le passé, mais là, qui sont mises en place pour de vrai. Donc, particulièrement la suspension de la taxe d'assise fédérale sur l'essence, la bonification du crédit de la TPS là, pour l'épicerie, qui sont des moyens qui sont mis en place là, par le gouvernement pour aider les familles, surtout les familles qui ont moins d'argent, surtout en ce qui concerne le crédit pour la TPS pour l'épicerie, à payer justement leur épicerie. Des mesures qui sont mises en place aussi pour favoriser un développement économique. On peut penser ici à cette bonification-là, cette aide financière-là pour des gens dans les métiers spécialisés qui vont se faire une formation, pour les jeunes qui vont faire une formation, pour les inciter à s'inscrire dans ces programmes de formation-là et à développer leurs compétences, et aussi à ce fonds souverain du Canada qui est lancé, pour lequel on n'a pas encore beaucoup d'explications, mais qui, dans la perspective du gouvernement de Mark Carney, vise à favoriser le développement économique, à ramasser des fonds au Canada pour le développement économique. Donc, un déficit moins grand que prévu, et sans surprise, le gouvernement utilise une partie de cet argent-là pour investir en espérant, c'est toujours le souhait, qu'il y a un retour sur l'investissement finalement et que dans la perspective à moyen et long terme, on soit quand même capable de continuer à baisser notre déficit d'année en année, c'est ce qui est toujours ce qui est au programme du gouvernement, et à favoriser la croissance économique pour plus répondre aux besoins des gens. C'est le plan de match qui est mis de l'avant, évidemment qui est critiqué par l'opposition, mais c'est le plan de match qui est mis de l'avant pour l'instant.
Et quand on parle de la formation, j'entends déjà certaines voix s'élever pour dire « ouais, mais ça relève des provinces ».
Et les voix ont effectivement déjà commencé à s'élever à ce niveau-là, particulièrement sans surprise de la part du Bloc québécois, où on critique ce qui semble être une ingérence dans les compétences provinciales, parce qu'effectivement, la formation, c'est d'abord et avant tout de domaine provincial. Reste à voir comment qu'on veut ficeler tout ça, reste à voir les négociations qui auront lieu avec les provinces. La tentation est toujours grande pour le palier fédéral d'annoncer des projets, des programmes, du financement dans les domaines qui ont un impact sur la population. Et souvent, ces domaines-là qui ont un impact sur la population, mais ça adonne que c'est de compétences provinciales. Donc, reste à voir comment tout cela va être ficelé. Reste à voir les négociations qui auront lieu avec les provinces, avec le Québec en particulier. Mais oui, le Bloc québécois est évidemment très critique de ça.
Et petite ombre au tableau aussi, il y a certains économistes qui ont relevé la chose hier, et il fallait pas s'en surprendre, c'est que on va être dans le rouge encore pendant un bon bout de temps. Là.
Oui, la sortie du rouge n'est pas prévue à court terme, n'est pas prévue dans un horizon là, qu'on peut qualifier là, de prévisible si on veut, c'est dans trop longtemps. Cela dit, le Mark Carney avait promis en campagne électorale de faire la distinction entre des budgets de fonctionnement et des budgets d'investissement. Et en ce sens-là, ben, pour ce qui est des budgets de dépenses, ce que Jacques Parizeau appelait payer l'épicerie avec la carte de crédit, on prévoit d'ici 3 ans, si mon souvenir est bon, d'être capable, d'ici 3 ans, d'être capable de réduire ça ou d'à peu près ne plus avoir ce déficit-là de fonctionnement courant, et qu'après il reste juste ce que Mark Carney et son gouvernement appellent un déficit lié aux investissements en capital, donc pour développer l'économie. Dans tous les cas, peu importe les termes qu'on utilise, ben ça demeure un déficit, évidemment, mais surtout, quand on se compare avec les autres pays comparables, particulièrement les pays du G7, ben notre situation se compare bien justement. On a une dette par rapport à notre PIB qui est plus bas que la plupart des autres pays des démocraties avancées. On a une situation économique qui est quand même enviable, qui est stable, qui s'en va dans le bon sens, même si effectivement on prévoit avoir encore des déficits, puis des gros déficits en termes absolus, en termes de chiffres eux-mêmes, pour encore les prochaines années, du moins jusqu'à la fin du mandat du gouvernement actuel au minimum, selon ce qui est prévu. Et c'est évidemment là-dessus que les conservateurs, en particulier, vont beaucoup critiquer le gouvernement, disant qu'il est trop dépensier et qu'il pèle finalement cette dette-là, ces dépenses-là, sur le dos des générations suivantes. On est encore là-dedans. Depuis que Justin Trudeau est devenu premier ministre, et maintenant avec Mark Carney également, ben les libéraux nous amènent dans des déficits. Évidemment, la pandémie a joué énormément là-dedans. Mais après ça, c'était le contexte économique avec l'arrivée de Donald Trump, les guerres tarifaires, la guerre au Moyen-Orient en Iran. Donc, tout cela contribue énormément. Pour l'instant, il n'y a pas de voie de sortie au déficit, mais d'amélioration quand même. Et on a quand même des reins relativement solides malgré tout.
Et quand on parle de reins solides, évidemment, le gouvernement, avec sa nouvelle majorité, peut quand même surfer assez allègrement sur tout ce qu'il pourrait annoncer au niveau économique, en fait, en matière de finances publiques.
Tout à fait. Le gouvernement est rendu majoritaire. Il a fait adopter une motion fort de sa majorité, justement, pour être majoritaire dans les comités parlementaires. Donc, il est maintenant pleinement majoritaire en Chambre, si on peut dire ça comme ça. La majorité demeure fragile, on en a déjà parlé, vous et moi, il y a quelques semaines, lorsque cette majorité-là s'est faite confirmer. Le gouvernement demeure fragile, c'est pas une grosse majorité, mais c'est une majorité. Et en ce sens-là, il n'y a pas vraiment d'inquiétude maintenant au niveau politique, au niveau de la joute partisane. À moins d'une grosse surprise le budget va pouvoir se faire adopter, la mise à jour économique et les programmes qui sont mis en place par cette mise à jour économique-là vont pouvoir se faire adopter sans de difficultés particulières au Parlement. Effectivement, maintenant, contrairement à ce qu'on a connu depuis plusieurs années maintenant, ben le Parti libéral du Canada n'a plus besoin d'avoir l'appui de partis d'opposition, d'autres partenaires de danse. Il peut danser tout seul, ce qui donne la latitude aux partis d'opposition de beaucoup plus critiquer le gouvernement, parce qu'il n'y a aucun d'eux maintenant qui a un intérêt à nécessairement appuyer le gouvernement, dans le sens où la survie du gouvernement n'est pas menacée.
Voilà, c'était Mathieu Bélanger, notre analyste politique, là, qui revenait sur la mise à jour économique du ministre François-Philippe Champagne d'hier. Il est 16h25.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Bon, tout d'abord, la métropolitaine pour Charles de Gaulle, un peu plus nombreux à partir de Bourget et jusqu'à environ 500 mètres passés à Henri Bourassa. Pour la suite des choses, oui, ça va bien pour atteindre Charles de Gaulle et franchir la rivière des Prairies. Repentigny, 40 Est, on circule sans problème. Oh, là où c'est problématique, là, c'est la montée de l'Épiphanie, la 341. Là, c'est lourd depuis la 40 et ce, jusqu'à environ, je dirais, un bon 1,5 km le passé, la rivière, l'Assomption, là, du côté de l'Assomption. Pont Le Gardeur, accès facile, oui, par Sherbrooke et par Notre-Dame. La 25 Nord Laval, c'est depuis le boulevard Lévesque où c'est dense, et ce, jusqu'à environ 1 km passé la jonction avec la 440. Île-Saint-Jean, Terrebonne, Mascouche, 25 Nord, oui, on circule sans problème. Pont Sophie-Masson, ça va bien en ce moment. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40, direction ouest et direction est. C'est assez dense, secteur de la montée des pionniers. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Mettez-nous au défi, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks S 2026 à traction avant en location 60 mois à partir de seulement 88 $ plus taxes par semaine sans aucun compte initial. Chez Joliette Nissan.
La Chambre de commerce du Grand Joliette est heureuse de dévoiler les finalistes de la 40e édition du Gala Excelsior présenté par Desjardins en collaboration avec Promutuel Assurance Lanaudière. Dans la catégorie Personnalité d'affaires de l'année, les finalistes sont Infologement, Jean Beck, Solutions Inox, Kia Joliette, Groupe JC Peinture Aérosol, Thermomax, le Groupe Joliette Sécurité, le Bistrot La Belle Excuse et le Bistrot Le Duc. Félicitations à tous les finalistes. Les lauréats seront dévoilés le 8 mai prochain dans le cadre du Bal en blanc au Centre culturel Desjardins.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Filgo, dépanneur voisin Polo dans le Carrefour du Moulin, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, épicerie Forêt, dépanneur voisin Joliette, dépanneur Super Sagami Pétro-Canada et pharmacie Nancy Gaudreau à Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonnie-Soir-Chel, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 voisin, dépanneur des Prairies, marché Philippe voisin et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonnie-Soir, dépanneur Proxy Extra, dépanneur voisin. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Salut, c'est Gabriel de Les Trois Frères Équipement. Nous organisons une grande vente samedi le 2 mai. Sur toutes les unités de marque Style, obtenez 10% de rabais sur le meilleur prix affiché. Ça veut dire que même sur la scie MS162 de Style, déjà en solde à $219,99, vous obtenez un rabais de 10% supplémentaire. Que ce soit pour l'entretien de votre terrain ou pour votre entreprise de paysagement, nous avons l'outil Style qui saura répondre à tous vos besoins. La meilleure journée pour économiser, c'est samedi le 2 mai chez Les Trois Frères Équipement au 217 rue Saint-Jacques à Saint-Jacques. Les Trois Frères Équipement, le meilleur service dans la Naudière.
L'actualité de ce mercredi 29 avril en manchette. L'insalubrité des logements à Manawan exposée au grand jour. Le prix du pétrole dépasse tous les records et le taux directeur de la Banque du Canada demeure inchangé. Et tout d'abord, Pierre Jubinville, Amnesty International, là, qui a dénoncé la situation du logement en territoire autochtone.
Oui, au terme de 2 ans de recherche sur la situation du logement, et le rapport cite en exemple la communauté de Manawan, dans la Naudière, qui fait état d'une crise du logement alarmante. On exige d'ailleurs une réponse immédiate. François Morin a préparé ce qui suit.
Là d'attendre un réel geste de la part d'Ottawa pour régler la crise du logement sur son territoire, le Conseil de la communauté de Manawan a demandé et obtenu l'intervention d'Amnesty International. Le rapport fait état d'une surpopulation inquiétante dans certaines maisons qui peuvent abriter jusqu'à plus de 20 personnes. Le chef, C.B. Flamand.
Ça peut entraîner des problèmes à l'intérieur même de ces maisons-là. Tu sais, des familles qui sont en conflit, des enfants qui ne peuvent pas se concentrer puis s'entraînent des décrochages scolaires.
Et c'est sans compter l'insalubrité causée par une vétusté impossible à contrer, faute de moyens.
Ces maisons-là ramassent beaucoup d'humidité qui entraîne la moisissure, puis qui entraîne également des problèmes de santé respiratoire.
Le député fédéral, le bloquiste Gabriel Sainte-Marie, doit interpeller le gouvernement.
C'est une question de dignité humaine de base.
Il a peur que même si c'est Ottawa qui est fiduciaire des communautés autochtones, les partis politiques provinciaux seront apostrophés en prévision du scrutin d'octobre. François Morin, CFNJ Nouvelles.
Bon, maintenant, le prix du pétrole qui part en folie, Pierre.
Oui, le Brent à 119 $ même, en hausse de 7 %. Le Brent, pour ceux qui l'ignorent, est la référence mondiale. Il y a l'équivalent américain qui monte aussi de la même ampleur pour atteindre 107 $. La hausse découle évidemment de la crainte du blocus qui pourrait être prolongée dans le détroit d'Ormuz. L'expert en énergie au Centre d'études et de recherche international Yvan Klich estime que les conséquences seront plus tangibles qu'en 2022.
En Ukraine, c'était simplement une présomption d'une disparition possible d'une certaine quantité de pétrole russe. Là, nous assistons actuellement à une disparition réelle de 10 millions de barils de pétrole. On ne peut pas se mettre de la tête dans le sable. Il va y avoir des conséquences et on commence à les sentir de plus en plus proches de nous. Même si nous ne sommes pas impactés par des possibles ruptures d'approvisionnement comme l'est le continent asiatique.
Bon, puis évidemment, le prix de tout ça se fait sentir à la hausse.
Conséquence directe, ah oui. Selon la régie de l'énergie.
À la pompe.
Oui, à la pompe. Oui. Le prix moyen est de 1,83 $. C'est une hausse de 2 cents depuis hier. Le prix le moins élevé est à Joliette à 1,79 $. Et je l'ai vu pourtant à 1,84 $ ce matin. Enfin, il est peut-être pas encore ajusté. Et le plus élevé, c'est dans la MRC Les Moulins à 1,89 $.
Et devant toute cette incertitude, la Banque du Canada là, qui joue de prudence.
Oui, elle a décidé de garder le taux directeur à 2,25 %. Le taux est à 2,25 % depuis octobre, mais déjà le gouverneur Tiff McLean ouvre la voie à une modification prochaine. Annie Guillemette.
La hausse des prix à la consommation provoquée par l'envolée du cours du pétrole reste tolérable pour les ménages, selon le gouverneur de la Banque du Canada. Mais si Tiff McLean entrevoit une croissance de l'économie et une baisse prochaine du prix de l'énergie, il n'écarte aucune possibilité pour la suite des choses.
L'incertitude est plus élevé que d'habitude. Il y a beaucoup d'issues possibles.
C'est que les impacts des tarifs et surtout de la situation au Moyen-Orient ne peuvent pas être prédits avec certitude. Pour l'économiste en chef de la Banque nationale, Stéphane Marion, le taux directeur devra possiblement être ajusté à la hausse en fonction des effets du blocage du détroit d'Ormuz, pas uniquement sur le prix du pétrole, mais aussi sur celui des autres marchandises qui y transitent.
C'est jamais arrivé qu'il y ait un choc pétrolier qui est devenu névralgique pour la chaîne de production manufacturière.
La prochaine mise à jour du taux directeur est prévue le 10 juin. Annie Guillemette pour Cogeco Nouvelles.
Et en terminant, Pierre, on a perdu il y a quelques semaines un grand lanaudois, la personne de Roger Brulotte, et Terrebonne le veut perpétuer sa mémoire.
Roger, citoyen de Terrebonne d'ailleurs, et la ville travaille à rendre un hommage à Roger et à perpétuer sa mémoire. Il y a eu une rencontre aujourd'hui avec sa veuve, Pascale Vallée, pour élaborer divers scénarios. La commission de toponymie de la ville est aussi sur le coup. On écoute le maire, Mathieu Traversy.
Ben, écoutez, l'hommage qu'on veut rendre à M. Brulotte, c'est une image, c'est un hommage à la hauteur, donc, de l'apport qu'il a emmené à notre collectivité. On veut le faire correctement, en équipe avec la famille. Il y a plusieurs possibilités qui ont été évoquées. On va mettre ça ensemble, puis on va regarder avec les gens de la famille qu'est-ce qui pourrait être le plus parlant pour rendre justice, donc, au dévouement de ce grand homme.
Est-ce que ce sera une rue, un parc, peut-être, un parc avec un terrain de baseball? Ce serait peut-être une bonne idée.
Tout est possible.
Oui. Ben merci beaucoup, Pierre Jubinville. Il est 16h34.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel. CFNG. Lanaudière PM. Affaires municipales.
La Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption va profiter d'une aide financière de 300 000 $ pour les deux prochaines années là, pour se restructurer et accroître sa présence sur le terrain. C'est le maire de Repentigny et préfet de la MRC de l'Assomption, Nicolas Dufour, là, qui en a fait l'annonce hier soir lors de son discours annuel devant un parterre de gens d'affaires qui ont constaté que la MRC est en pleine transformation et Régent Turgeon a eu l'occasion de le rencontrer.
Nicolas Dufour, maire de Repentigny, préfet de la MRC de l'Assomption. Un discours très attendu ce soir devant les membres de la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption. Un territoire qui est en pleine transformation.
Oui, puis le message ce soir à nos gens d'affaires, c'était qu'on est 5 villes, mais on est surtout une économie régionale, celle de la MRC de l'Assomption. On le voit, nos 5 municipalités se transforment, prennent des directions. Il y en a qui se densifient, comme par exemple Charlemagne. À l'Assomption, on a profité des terres agricoles pour les transformer en opportunités économiques. Saint-Sulpice redonne accès au fleuve, redynamise son secteur commercial. L'Épiphanie est en train de lever des projets industriels. Puis à Repentigny, on le sait, avec Avancé, on travaille la requalification du secteur industriel le long de l'autoroute 40. Donc, on voit que notre MRC est en transformation, est en changement, mais des changements qui sont bénéfiques autant pour la qualité de vie des citoyens que pour nos gens d'affaires.
Cette transformation-là, on la sent parce que vous avez, du point de vue de la MRC, accordé ce soir 300 000 $ à la Chambre de commerce de la MRC, de l'Assomption, 300 000 $ sur 2 ans. C'était réfléchi, cette décision-là.
Oui, c'était préparé d'avance, puis c'est une somme qui est historique, un appui qui est unique envers notre Chambre de commerce, parce qu'on sent qu'elle est à un tournant de son histoire. On veut s'assurer qu'elle ait les bonnes bases pour continuer à prospérer, à bien défendre la voix des entrepreneurs et des gens d'affaires d'ici, et surtout qu'ils se fassent entendre autant à Québec qu'à Ottawa. On a des grands dossiers au niveau du développement, on a aussi des grands défis, et d'avoir derrière nous, comme politiciens, toute la force d'une Chambre de commerce du milieu des affaires, c'est sûr que ça nous permet d'avancer encore plus loin.
On parle beaucoup de mobilisation. On a vu ce que ça donnait à Montréal là, dans le dossier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On veut importer cette pratique-là ou cette façon de voir les choses, la mobilisation, l'importance de ça.
C'est exactement ça, la vision. Je ne vous cacherai pas que j'ai été très inspiré quand je voyais la Chambre de commerce de l'Est de Montréal qui se mobilisait avec tous les acteurs, là, que ce soit la société civile, les citoyens, le milieu économique, pour défendre un projet qui est majeur dans leur communauté, dans ce cas-ci l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. À Repentigny, on a aussi des défis dans nos investissements en santé, en éducation, surtout en mobilité, ce qui touche directement les gens d'affaires. Alors, on veut s'inspirer des meilleures pratiques des chambres de commerce et se créer un réseau d'affaires qui se tient, un tissu serré pour porter des dossiers autant à Québec qu'à Ottawa.
On parle beaucoup de la Chambre de commerce, la MRC de l'Assomption, mais il faudrait parler du bras économique aussi de la MRC. Synov ne va pas sans la Chambre de commerce, dans un sens.
Non, c'est complémentaire. Puis ça, c'est vraiment une belle réussite. C'est un modèle unique hein, dans notre MRC comparativement au restant du Québec, d'avoir une corporation qui est indépendante de la MRC, même si elle travaille bien sûr en collaboration. Parce que pour nous, c'est important d'avoir un conseil d'administration. C'est important d'avoir des gens du milieu qui sont avec Synov. Ouais. Synov, son objectif, il est simple. La minute qu'une personne a une idée en affaires, un projet, quelle que soit l'étape, il peut contacter Synov qui va devenir un accélérateur de mouvement, qui va devenir une organisation qui va aider l'entreprise à se structurer, à faire son plan d'affaires, à voir les possibles subventions, les prêts et les aides qui peuvent être accordées. Donc, c'est vraiment la première porte où aller cogner quand on a un projet d'affaires.
Il y a eu des grands projets annoncés ces dernières années. Au premier chef, la zone Agtech. On y reviendra pas parce qu'on en parle souvent. Mais votre projet Avancia, là, M. Dufour, ça a été annoncé il y a un an. Ça avance-tu, Avancia?
Oui, déjà le lendemain de l'élection municipale de 2025, on a autorisé deux projets de construction résidentielle commerciale, parce que pour nous, le premier étage est toujours commercial. C'est sûr que les gens attendaient le résultat de l'élection pour voir la direction que ça allait prendre. L'annonce était faite en avril. C'est important pour moi d'annoncer le projet officiellement avant l'élection pour que les gens, lorsqu'ils votent, fassent un choix éclairé sur la direction qu'ils souhaitaient donner à la ville de Repentigny. Le lendemain des élections, quand les investisseurs ont vu que c'était 12 en 12, avec près de 70 % du taux de vote, tout le monde s'est dit au Québec, ben là, on passe à la lumière verte, Avancia, ça part pour le vrai. La séance du Conseil de décembre, deux projets approuvés. On a déjà beaucoup dans le pipeline là, qui, au cours des prochaines semaines, prochains mois, vont être autorisés au Conseil municipal. Donc, je vous invite à rester alerte parce qu'il va y avoir beaucoup de belles annonces économiques dans les prochains mois à Repentigny.
Il y avait eu beaucoup d'appréhension par rapport à Avancia l'année passée quand vous l'avez annoncé. Il y a des gens d'affaires dans le parc industriel qui sont là depuis des années, des vieilles entreprises, des moins vieilles. Il y avait cette notion possible d'expropriation. Est-ce que le fait qu'il pourrait y en avoir ou qu'il n'y en aura pas, ça influence vos décisions là?
Bien, il n'y a pas d'expropriation, puis je le dis toujours, là, l'expropriation en milieu municipal, là, c'est la bombe nucléaire, on ne veut pas l'utiliser, puis déjà, là, on réussit à faire lever beaucoup de projets dans Avancia sans même avoir à exproprier qui que ce soit. Il y a des ventes de terrain qui se font de gré à gré envers la ville, il y a des ventes de terrain qui se font directement auprès d'entreprises. Le meilleur exemple, Maripin, déjà là, l'année dernière, s'est établi dans le parc industriel, donc on a levé là, le droit de préemption, ils ont acquis le terrain, ils ont parti leurs activités, parce que ça répond à la vision qu'on a d'Avancia. Donc, là-dessus, je pense que le temps passe. Les gens voient que, à chaque... Ceux qui ont crié au loup, après un mois, un an, deux ans, il ne s'est rien passé. À un moment donné, le résultat est concret puis c'est clair. Alors, pour nous, là, on ne se dirige pas vers des expropriations.
On ne tordra pas de bras.
Non, pas du tout. Il y a déjà plein de belles entreprises. Il y a beaucoup de propriétaires d'entreprises dans le parc qui m'ont dit, nous, là, on n'est pas prêts à vendre parce qu'il nous reste encore un 4-5 ans de vie utile à l'entreprise. Mais d'ici 5 ans, on va être rendu à une étape de notre vie d'entrepreneur où on va vouloir vendre le bâtiment, l'entreprise et le terrain pour passer à d'autres choses, plan de retraite et compagnie. Donc, je pense qu'on est vraiment dans le bon timing. Faire Avancia, il y a 15-20 ans, ça n'aurait peut-être pas marché. Je pense qu'aujourd'hui, Repentigny est mûr pour cette transformation.
Merci de l'Assomption, t'es en bonne santé économique.
Oui, vraiment, puis on le voit, là, autant avec la zone Actec, à titre d'exemple, là, c'est déjà 86 millions de retombées économiques qu'on a juste pour la zone Actec. Il y a du développement commercial qui se fait à Charlemagne. L'Épiphanie s'en va sur des grands projets là, de requalification puis de création de parcs industriels. Alors, il va y avoir beaucoup d'emplois là, qui vont être créés dans la région. Puis ça, c'est bon pour les citoyens, parce que s'il y a un emploi de proximité qui est créé, bien, ça donne l'opportunité d'abandonner son auto, de ne pas être obligé de se diriger vers Montréal, d'être pris dans le trafic une heure et demie aller, une heure et demie retour. Donc, ça, là, c'est pas pour rien qu'on fait du développement économique. C'est pour assurer une belle qualité de vie à nos citoyens. Puis ça, c'est des exemples concrets.
Régent Durgeon qui s'entretenait avec le maire de Repentigny et préfet de la MRC de l'Assomption, Nicolas Dufour. Là, je vous rappelle que la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption va profiter là, d'une aide financière de 300 000 $ pour les deux prochaines années. Il est 16h42. Dans un moment, Pierre Paquette.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. L'arrivée du beau temps signifie qu'il est maintenant temps de passer nous voir pour l'installation de vos pneus d'été. Profitez-en également pour découvrir pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Pendant l'événement, mettez-nous des filles, profitez de rabais exceptionnels sur nos Sentra, Leaf, Rogue et Kicks 2026. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Parler de la mort n'est pas un sujet facile. C'est pourquoi votre coopérative funéraire vous aide à planifier vos arrangements préalables avec empathie, et ce, sans pression. En plus d'éviter à vos proches d'avoir à prendre des décisions sous le coup de l'émotion, vous décidez du type de funérailles que vous souhaitez et vous en payez le coût au tarif d'aujourd'hui. Appelez-nous pour en discuter, car ce qui compte pour vous, compte pour nous. La coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm, éternellement dévouée.
L'embarquement pour le vol.
vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Au concert du dimanche à CFNJ, Marie Laforêt. Le concert du dimanche matin 7h à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut, bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
La première ministre Christine Fréchette qui calque l'Ontario là en baissant les impôts des PME au Québec, là, c'est applicable à partir de demain.
Oui, exactement. Va baisser de pour les entreprises qui ont 5500 heures de travail comme employés et plus. C'est quand même 75 000 PME. Et puis, ça représente à peu près 126 millions de dollars par année de réduction. En moyenne, ça va être 5 000 $ de baisse d'impôts par année. Mais c'est quand ça a quand même été demandé par la Fédération de l'entreprise indépendante, par l'Association des manufacturiers. Donc, c'est bien reçu par le monde des affaires. Je sais que plusieurs partis d'opposition trouvaient que c'est une manœuvre électoraliste, mais en même temps, ils ont tous eux-mêmes promis qu'ils baisseraient les impôts après avoir pris le pouvoir après l'élection du mois d'octobre. Alors, moi, je trouve que ce qui est électoraliste, c'est pas tellement l'annonce que le moment où l'annonce est faite. Là. C'est-à-dire oui. Elle l'annonce comme pour essayer, encore une fois, un peu d'utiliser la technique Carney, de mettre toute l'ère Legault derrière elle. Et mm-hmm. Elle n'a rien à voir avec ça. Et donc, on s'adresse aux PME plutôt qu'aux grandes entreprises internationales. Et on veut faire oublier Northvolt et puis toutes les,
ouais, mais
les débats qui
c'est
se sont produits.
C'est ça. C'est le dernier mandat de la CAQ a été celui, justement, des argents, passe-moi l'expression, là, lancés par les fenêtres là, pour les grandes entreprises comme Northvolt. Mais quand même, l'Ontario l'avait déjà fait dans son dernier budget au mois de mars. On a fait passer le taux d'imposition aux PME là, de 3,2 à 2,2. C'est sensiblement les mêmes chiffres là, pour oui. Le Québec. Là.
Oui, oui, mais comme je te dis, je pense pas que la mesure soit mauvaise et je pense que les autres partis l'auraient repris de toute façon en campagne électorale. C'est juste le fait qu'on essaie d'amener ça à la fin d'un mandat alors que ça aurait dû arriver bien avant. Par exemple, Éric Girard avait annoncé aussi des mesures dans le dernier budget pour les PME. Alors, ça se rajoute à ces mesures-là. Je pense que c'est Mme Fréchette qui voulait surtout poser un geste pour montrer qu'elle a une vision économique. Elle joue beaucoup là-dessus. Et ce montant-là, ce qui est intéressant aussi, il est pris sur le 1,3 milliard que Éric Girard avait mis de côté dans le dernier budget, à la demande de François Legault,
ouais, le
pour son éventuel successeur.
C'est ça, le lousse que voulait laisser François Legault à son successeur, là, c'était ça, là.
Exactement. Là, pour le moment, ça sert à deux mesures, puis je pense pas qu'il va tellement en avoir plus. C'est la réduction des impôts pour les PME. Ben, c'est quand même, comme je le mentionnais, 75 000 PME qui vont pas en bénéficier. Et la taxe de bienvenue, là, qui est éliminée jusqu'à 5 000 $ pour les acheteurs de première maison. Alors ça, c'est les deux grosses mesures qu'elle a annoncées en utilisant ce 1,3 milliard qu'Éric Girard avait mis de côté dans son budget. Alors ça aussi, c'est un peu particulier, mais ça a déjà été dénoncé par les partis d'opposition et les observateurs depuis le budget. Alors, je pense pas que ça va faire bien des flamèches.
Mais on le voit bien, Pierre, que Christine Fréchette, depuis une bonne semaine, là, travaille très, très fort à redorer l'image de la CAQ.
Oui, à redorer l'image de la CAQ et à se distancer de François Legault. Elle n'arrête pas de répéter qu'elle ne veut être moins interventionniste, alors que François Legault était interventionniste un peu malgré lui. Là, il a été quand même pris avec la pandémie de COVID-19 qui l'a obligé à poser des gestes. On le voit aussi quand elle est allée cette semaine aux États-Unis pour rencontrer le secrétaire au commerce, ce qui est une très bonne initiative. Je pense que personne ne peut lui reprocher ça. Mais effectivement, elle pose des gestes pour montrer que l'ère Legault est derrière nous, puis c'est l'ère Fréchette qui commence.
Et puis,
je pense que ça va réussir j'ai des doutes.
Par rapport à la mise à jour économique du gouvernement fédéral d'hier, Christine Fréchette a rappelé que la formation de la main-d'œuvre est d'un champ de compétences provinciales.
Oui.
Suite aux annonces du fédéral d'hier, là.
Ben exactement. Ça m'a l'air de l'improvisation du côté du fédéral parce que il n'y a rien d'attaché avec les provinces, avec le Québec. T'as beau annoncer qu'il va y avoir des bonifications pour les entreprises qui vont permettre à leurs employés de se former, qu'il va y avoir des bonus à la fin de leur formation. Mais si les provinces, le Québec, sont pas capables de livrer la marchandise, c'est-à-dire ils n'ont pas les places nécessaires, ils n'ont pas les budgets nécessaires pour recevoir ces étudiants-là, c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors, moi, ça m'a eu l'air très improvisé de la part de M. Carney. Et puis, ben, je comprends que Mme Fréchette puisse rappeler que c'est une compétence du Québec, parce que là, c'est des coûts supplémentaires pour les provinces, pour le Québec, mais pas d'argent de plus du côté du fédéral. Alors, c'est nous qui allons, enfin, c'est le Québec, les provinces qui vont vivre avec le problème du fait qu'il va y avoir trop de demandes par rapport à la capacité d'offrir des places pour ces cours de travailleurs spécialisés.
Donc, Christine Fréchette qui en est à sa première confrontation, si tu le veux, avec Ottawa, justement, là, dans un dossier, là, celui de formation de la main-d'œuvre.
Oui, elle n'aura pas le choix. Là, je sais bien qu'elle veut avoir une approche collaboratrice, mais le fédéral, lui, il a toujours Carney et compagnie. Ils ont toujours en tête que c'est eux qui mènent la baraque, et puis c'est leur décision qui doit être pris en compte. Alors, par exemple, dans l'énoncé économique, un autre aspect qui n'a pas été du tout regardé de la part du fédéral de M. Carney, c'est les problèmes que les entreprises québécoises vont avoir, et ontariennes aussi, il faut bien le dire, avec la façon dont le gouvernement Trump a décidé de calculer maintenant les droits de douane. Mmh. Avant, c'était en fonction de, bon, je sais pas moi, s'il y a 10% d'aluminium dans un produit, ben on taxait ce 10%-là de façon plus importante que le reste du produit. Maintenant, si c'est 10% d'aluminium dans un produit, c'est tout le produit qui va être taxé de 25% supplémentaire. Alors ça va faire très mal à beaucoup d'entreprises québécoises. Et je pense que Mme Fréchette aurait eu intérêt à le rappeler aujourd'hui aussi. Là.
On va la regarder aller dans les prochaines semaines, Pierre, parce que je disais que les sondages qu'on a pu voir dans les dernières semaines ne valaient absolument à rien, puisque Christine Fréchette venait tout juste d'être nommée ou n'était pas encore nommée. Laissons-la travailler pendant à peu près un mois. D'ici là, ben, il y aura sans doute d'autres sondages qui seront faits, mais chose certaine, c'est que elle vient de redorer son image là auprès d'entreprises. D'ailleurs, elle a fait, pas pour rien, cette déclaration-là à Beauceville, donc en Beauce, et on sait à quel point que la Beauce risque de quitter la CAQ pour s'en aller dans le giron du Parti conservateur d'Éric Duhaime. Là.
Exactement. Alors ça, je pense que c'était assez intéressant de remarquer ça. Alors, elle tire un peu sur tous les partis d'opposition, que ce soit les libéraux, le Parti québécois ou le Parti conservateur. Mais effectivement, moi aussi, j'ai hâte de voir les premiers sondages qui vont sortir, j'espère, dans quelques jours.
Merci, Pierre Paquette.
Merci, puis bonne fin de semaine.
Je salue et remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, François Morin, Mathieu Bélanger, Pierre Jubinville, Régent Turgeon et Pierre Paquette. Nous, on sera là demain. Là. On est là à 16h. Faut pas manquer l'Anaudière PM tout de suite après l'actualité de 16h. Nicolas Bellemare s'amène pour vous présenter dans les prochaines minutes le 5 à 7 trad de CFLJ et il sera en compagnie aussi d'Hugo Valiquette dans un tout petit moment avec La vie dans la Naudière. Salut tout le monde, à demain.